song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika.
Bonjour, 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 auditrices, auditeurs de Radio Galère. Eh bien, nous sommes mercredi 15 octobre 2025. Je suis encore seule au micro pour nos livres et amis du jour. Mais heureusement, Jules est là à la technique. Et Jules est là avec deux nouveaux, ou plutôt nouvelles, services civiques. C'est Kania et Suan qui me font des grands gestes là derrière les vitres. Donc, écoutez, d'abord, bienvenue à elles. Merci à Jules. Et puis, j'avais pas trop la forme ce matin, mais on va essayer de retrouver la forme. Donc, pour aujourd'hui, la deuxième partie du livre du docteur Mukwege, La force des femmes. La force des femmes, celles et ceux qui ont écouté l'émission de la semaine dernière savent que avec Denis Mukwege, nous sommes dans l'est du Congo, au cœur de ce centre est africain bouleversé par la guerre depuis, 70 ans maintenant. Alors, je vous lis La force des femmes en relation avec deux films qui sont sur les écrans en ce moment. À Marseille aussi, bien sûr. En ce moment, donc, Muganga, qui raconte justement l'histoire de Denis Mukwege, puisque Muganga en Swahili, ça veut dire celui qui soigne. Et d'autre part, n'oublions pas ce fabuleux film qui s'appelle Soundtrack pour un coup d'État ou Bande sonore pour un coup d'État. Qui analyse et illustre en musique la naissance du Congo, de la République indépendante du Congo, celui qu'on appelait le Congo Kinshasa, qui donc devient indépendant en 1960. Mais l'histoire du Congo Kinshasa commence par l'assassinat commandité par les États-Unis de son premier ministre, Patrice Lumumba. Et donc, dans Soundtrack pour un coup d'État ou Bande sonore pour un coup d'État, eh bien, on trouve l'analyse et la présentation musicale du contexte de cette manipulation de la politique internationale par les États-Unis. Et je dirais pas du début du malheur du Congo, parce que hélas, le Congo, qui était le Congo belge et qui avait été la propriété privée de Léopold II pendant un certain nombre d'années, avait connu bien d'autres malheurs avant. Mais disons que on aurait pu espérer que les malheurs s'arrêtent avec l'indépendance. Eh ben non, pas du tout, dans la mesure où le Congo Kinshasa, comme d'autres pays d'Afrique, est riche en matières premières, en cuivre, en coltan, etc. Il fait l'objet, évidemment, de l'attention toute spéciale des capitalistes du monde entier. Et c'est bien ce que nous explique d'ailleurs Soundtrack pour un coup d'État, qu'on peut voir cette semaine encore à la Baleine, à l'Alhambra, jusqu'à la fin du mois. Et Muganga, Muganga, ça passe aussi à l'Alhambra, ça passe à Marignane, ça passe aux variétés, etc. Donc, allez voir un petit peu toute cette histoire bouleversée et bouleversante du Congo, des indépendances africaines, de la politique, de manipulation des États-Unis sur l'ensemble du monde dans les années 60, ou l'ensemble du monde justement non communiste, puisque leur truc, c'est qu'ils ne voulaient pas que le monde devienne communiste. Donc, ils ont agi de toute la puissance de feu qu'ils possédaient ou directement ou indirectement, pour se débarrasser de tous ceux qui ne leur convenaient pas. Donc, hélas, Patrice Lumumba faisait partie du tableau de ceux qui ne leur convenaient pas. Et il a été éliminé. On a fini par découvrir tout ce qui avait été caché, bien sûr. Il a été assassiné, lui et ses deux collaborateurs qui allaient dans le sud, au Katanga, au mois de juillet, je crois, 1960. Ils ont été assassinés, leur corps a été découpé et plongé dans l'acide pour qu'on ne les retrouve pas. On a fini par retrouver des dents. Et donc avoir la preuve que le corps de Patrice Lumumba et de ses deux collaborateurs avait été éliminé une spécialisation dans le meurtre et dans la disparition qui fait toujours frémir, même 70 ans après. Donc, écoutez, on va aussi continuer dans l'horreur. Je vous signale, je vous resignale, parce qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui le savent, bien sûr, que le 17 octobre, cette année, vendredi 17 octobre, la commémoration des massacres du 17 octobre 1961 à Paris, la répression policière organisée par le préfet Papon contre une manifestation pacifiste d'Algériens qui refusent le couvre-feu, puisque à l'époque ils vivent en France, ils travaillent dans les industries françaises, ils font tourner, comme on dit, l'économie française, mais ils n'ont pas droit à grand-chose et ils ont surtout droit à un couvre-feu le soir pour rester enfermés chez eux, étant donné que ce sont évidemment de dangereux terroristes en puissance. Donc les Algériens qui défilent pacifiquement ce 17 octobre 1961 ont droit à une répression policière sanglante. Il y a des dizaines de personnes qui meurent. On évalue à 200, en fait, le nombre de personnes ou assassinées ou disparues à cette date, autour de cette date. Et cette année, donc vendredi 17 octobre, nous nous réunissons sur les escaliers de la gare Saint-Charles à 18h pour commémorer le massacre des Algériens qui demandaient simplement les mêmes droits que tout le monde en ce mois d'octobre 1961. Alors la répression policière, bon, c'est pas nouveau, mais malheureusement ça continue, c'est un peu, vous savez, c'est assez horrible, effectivement. On a l'impression d'un ballet des horreurs, on a l'impression d'une répétition d'un certain nombre de choses. Et c'est vrai qu'il y a bien des pays dans le monde où quand on se rassemble et qu'on défile pacifiquement, on a juste droit à se faire assassiner par la police. Chez nous, on se fait tabasser par la police, donc voilà. Alors revenons au Congo, revenons aux horreurs là aussi qui... hélas, se sont renouvelés pendant un nombre d'années que je n'ose même plus compter. Et je vous avais laissé la semaine dernière ce qui caractérise le livre de Denis Mukwege, qui au passage quand même a été prix Nobel de la paix pour ce qu'il a fait justement au Congo. Je vous avais laissé avec une analyse... tout à fait évidente, pourrait-on dire, de la situation. Il nous dit finalement, ce qui s'est passé au Congo, c'est en effet les horreurs de la décolonisation et la volonté, comme on a vu, de l'intervention des États-Unis. Mais il y a aussi au Congo un contexte particulier, un pays qui a vraiment été impitoyablement exploité par des sociétés capitalistes. Vous allez me dire, là encore, il y en a d'autres en Afrique, qui a en même temps été très mal gouverné, c'est-à-dire que les gouvernements successifs qui facilitaient évidemment l'intrusion de l'exploitation par les grandes entreprises internationales, ces gouvernements ont quand même été particulièrement carabinés, disait-on chez moi quand j'étais jeune. Donc, ils se sont succédés en laissant tous des souvenirs affreux à la population, puisque en fait, leur gouvernement s'est traduit, en plus des violences, par l'érosion croissante des structures sociales, l'érosion croissante des institutions, Et donc, ceci en parallèle, bien sûr, avec des décennies de conflits. On essaye, enfin, ils essayaient de garder une image pour, je ne sais pas, une image internationale, mais en même temps, à l'intérieur, comme on dit, tout fichait le camp. Donc, l'analyse de Denis Mukwege, on l'a vu la semaine dernière, elle est particulièrement simple et elle nous dit bien une situation politique, une situation économique, une situation sociale. Et en particulier, bon, on s'est attaché avec lui, bien sûr, à ce qu'il appelle la force des femmes, c'est-à-dire le fait que les femmes ont été traitées comme des armes de guerre dans les combats frontaliers et que malgré tout, ces femmes ont résisté et ont cherché ensuite à se reconstruire. Alors je reviens, je ne vais pas trop en faire aujourd'hui, hein, je reviens très brièvement aujourd'hui sur les violences faites aux femmes dans ces situations particulières. Et puis, on va surtout se centrer sur la reconstruction, au contraire. Donc, le fait que Denis Mukwege, non seulement intervient en tant que médecin, mais met en place, justement, des structures, là où les structures sociales n'existent plus, des structures qui permettent aux femmes de se réinsérer dans la vie économique et sociale. Donc revenons brièvement sur la situation. Au début, la plupart des femmes venaient de Bukavu et des villages environnants. N'oublions pas qu'on parle des hôpitaux d'abord de l'Emera, puis de Ponzi, qui sont donc installés tout près de Bukavu. Toutes avaient été violées par des hommes armés, des soldats ou des rebelles. Parfois chez elles, parfois dans les champs ou encore surprises en train d'aller laver le linge, d'aller chercher de l'eau, d'aller chercher du bois de chauffe. Nombre d'entre elles avaient des plaies infligées avec une violence extrême. Quelques-unes, beaucoup d'entre elles même, avaient été volontairement blessées aux parties génitales, avec ou sans viol physique. Les violeurs, quelquefois, inséraient leurs pistolets dans le vagin de leurs victimes avant d'appuyer sur la détente. D'autres femmes avaient été pénétrées avec des bouts de bois, des objets tranchants, coupés à coups de machette ou brûlés avec du plastique brûlant. Une femme, une fois, a même été forcée à s'accroupir au-dessus d'un feu et avait bien sûr eu des brûlures gravissimes. Elles étaient souvent violées devant leur famille, devant leur village, et on demandait, enfin les militaires locaux demandaient quelquefois aux personnes du village de participer au viol sous peine de mort s'ils refusaient. Donc tous ces récits, évidemment, créent une horreur permanente à la fois dans l'esprit des femmes et dans l'environnement. Certaines patientes avaient le regard vide en mettant des mots sur les actes à peine concevables qu'elles avaient subis, tout en laissant s'écouler les phrases entre leurs lèvres comme si elles décrivaient une scène lointaine. D'autres se détournaient et couvraient leurs yeux avec leurs mains. On avait l'impression qu'elles se débattaient contre les supplices auxquels elles ne pouvaient plus s'empêcher de penser. Certaines étaient secouées de grandes vagues de sanglots, d'autres pleuraient en silence, des torrents de larmes ruisselant sur leurs joues. Et beaucoup avaient la même expression désespérée, « On m'a tué, ils m'ont tué ». Estimer le nombre de viols commis au Congo est un exercice complexe et quasi impossible en raison du manque de données fiables et de la réticence des femmes ou des villages à dénoncer les crimes subis. Dans une étude abondamment citée, fruit de travail de chercheurs internationaux et de l'ONU, faite en 2011 à partir des données d'une enquête congolaise et aussi internationale, on estimait que plus de 400 000 femmes étaient violées chaque année au Congo et dans les zones limitrophes. Des doutes ont été émis sur la méthodologie de l'enquête, mais il est certain que ce chiffre n'est pas irréaliste. Il y avait parfois, on l'a vu, des viols commis sur toutes les femmes et les filles d'un village dans une même journée, ce qui signifie 200 ou 300 nouvelles victimes en l'espace de quelques heures. Bon, donc ça, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. On va maintenant revenir sur l'objet de la deuxième partie du livre et donc la deuxième partie de nos émissions, puisque cette deuxième partie, c'est plutôt l'œuvre du docteur Mukwege, l'œuvre de Denis Mukwege. C'est justement la relation de la force des femmes, c'est-à-dire de ce que ces femmes qui ont subi toutes les horreurs qu'on a décrites peuvent faire pour se reconstruire en tant que personne et pour permettre aussi la reconstruction des groupes sociaux dont on a vu que finalement l'existence même était également remise en cause. On avait vu que bien des villages connaissaient l'horreur du passage des soldats, puis des rebelles, puis des re-rebelles, puis des rebelles des rebelles, puis de nouveau des soldats officiels, nationaux. Et donc tout ça avec à chaque fois un lourd tribut pour les populations civiles. Donc il s'agit non seulement de reconstruire les femmes en tant que personnes, mais il s'agit aussi de reconstruire un tissu social. Et ça, c'est autrement plus difficile, puisque finalement, par exemple en ce moment, la ville de Bukavu, où exerçait le docteur Mukwege, est occupée par les rebelles rwandais, qui occupent donc une partie du territoire congolais, et pour l'instant, non seulement Denis Mukwege, mais évidemment un certain nombre de personnes originaires de cette zone sont en exil parce qu'ils ne pouvaient plus du tout vivre dans ces conflits permanents. Alors, Denis Mukwege nous dit à Panzi, je soignais donc régulièrement toutes ces femmes victimes de violences physiques, quelle que soit leur origine. Et je réalisais des chirurgies réparatrices pour essayer d'améliorer la perception que les patientes avaient d'elles-mêmes. J'ai fini par avoir une véritable expertise. L'hôpital de Panzi est devenu un centre régional et même peu à peu international, où il était possible de recevoir des soins de reconstruction, de reconstitution de l'appareil génital pour les femmes. Il y avait des cas très compliqués, les femmes venaient donc de toute la province, d'autres provinces et même d'autres pays. Et puis, à partir de 2004-2005, les chiffres de femmes traitées à Panzi se sont vraiment envolés. Il y a eu, par exemple, en 2005, 3000 femmes soignées dans l'année. Et en dehors de ces soins, bien sûr, il faut mentionner toute la partie sociale. Mais avant d'en venir à cela, Denis Mukwege dit: c'est l'occasion d'évoquer des souvenirs et en particulier les souvenirs de travail avec deux personnes, deux autres praticiens qui ont fait un travail énorme à la fois dans la chirurgie réparatrice des femmes et dans la générosité et la bienveillance des travaux avec les femmes précisément. Alors, il évoque le cas de Catherine Hamlin, qui est une chirurgienne australienne qui a fondé un hôpital à Addis Abeba dans les années 70 et qui a continué d'exercer pendant une trentaine d'années. Les Hamlin ont soigné en Éthiopie des dizaines de milliers de femmes. Et puis, il y a un autre médecin qu'il faut mentionner, c'est le docteur Guy Bernard Cadière, un chirurgien belge, qui est venu lui-même soutenir de façon inébranlable l'hôpital de Panzi, qui est venu y opérer et qui est venu former d'autres médecins, d'autres chirurgiens à une technique non invasive de microchirurgie par kélioscopie qu'il avait mis au point en Belgique. Donc c'est vrai que tout seul, je ne serais peut-être pas parvenue à grand-chose, mais avec ses collègues, avec ses maîtres aussi, avec à la fois les prédécesseurs et les successeurs qui ont travaillé avec moi, eh bien, j'ai pu en fait mettre en place un vrai travail de reconstruction pour les femmes. Mais ce travail médical ne suffisait pas. la prise en charge des victimes, c'était non seulement la prise en charge physique, mais aussi la prise en charge du traumatisme que les victimes avaient subi. Il n'y avait pas au départ de psychologue clinicien dans toute la région où j'étais. Mais on a fini par trouver un psychologue du travail qui a accepté de passer du secteur de l'entreprise à celui de l'hôpital. Et grâce à lui, on a pu initier la formation de quelques femmes plus expérimentées parmi l'équipe des infirmiers et infirmières. Ces femmes étaient formées médicalement, on les a formées psychologiquement pour qu'elles puissent, elles aussi, travailler sur les soins psychologiques à donner au traumatisme. Et elles se sont remarquablement illustrées par leur compassion, leur maturité, leur écoute. Chaque nouvelle patiente était invitée à rencontrer l'équipe de soutien psychologique et faisait l'objet d'une évaluation de ses symptômes traumatiques. Au fil du temps, d'ailleurs, les techniques mises en place à l'hôpital, sur le plan du soin au traumatisme, se sont affinées. Nous avons reçu de l'aide, peu à peu, de cliniciens qui nous ont rendu visite, des cliniciens européens, canadiens, américains, et toute une équipe s'est mise en place. Ainsi, toute femme qui arrivait à l'hôpital avec des blessures de viol se voyait assigner une maman chérie, et une maman chérie qui était dans l'équipe, bien sûr. Ces femmes, elles étaient à l'origine infirmières, souvent, mais aussi assistantes sociales, et donc elles sont devenues psychologues. Elles ont été fantastiques, fantastiques de chaleur, de vitalité, puisqu'elles servaient à la fois de confidentes et de guides. Elles délivraient les câlins, la musique, la danse, autant que les médicaments. Elles étaient mamans dans tout le sens du terme. Elles aidaient les patientes à sortir de leur léthargie et elles les secondaient dans leur renaissance physique comme psychologique. Donc, chaque patiente était évaluée de façon à jauger son traumatisme et les cas graves étaient envoyés à l'équipe des psychologues pour des suivis vraiment systématiques. Il y avait bien sûr un essai de classification au départ, mais il faut se dire que chaque accident, chaque victime vivait d'une manière unique ce qu'elle avait subi. En fonction des circonstances, du degré de violence et de l'identité des criminels qui avaient accompli les horreurs, il y avait en fait tout un spectre de réactions. Il n'y avait pas de normes, il y avait plutôt tout un éventail de possibilités qui étaient données justement aux victimes pour pouvoir échanger, se faire écouter, se faire soigner en effet sur le plan psychologique en fonction des besoins identifiés entre la patiente et l'équipe de psychologues. Certaines femmes ont développé une aversion viscérale des hommes parce que tout homme leur semblait un agresseur. D'autres, une aversion totale de soldats ou de tout ce qui pouvait y ressembler, d'hommes en uniforme, d'armes, comme bien sûr les mitraillettes, mais aussi les armes en général. Cette horreur permanente leur avait finalement donné des hyper-réactions par rapport à ce qu'elles vivaient. D'autres, au contraire, ont développé une hyposexualité. Ben oui, le viol débouche souvent sur un manque total d'intérêt pour le sexe ou le rejet total de la sexualité, même en famille, lorsque les femmes retournent et retrouvent leur famille. C'est comme si elles étaient détachées de leur corps, elles ne leur accordent plus de valeur et elles semblent avoir une aversion pour toute relation physique, quelle qu'elle soit. Donc il faut leur redonner... Grâce en particulier à l'environnement apaisant et soutenant, une possibilité de contact et de contact apaisé avec d'autres personnes. Et puis, il a fallu donc mettre en place des structures qui permettaient de renouveler les équipes, parce que même moi, par exemple, je sentais mon travail me broyer et quelquefois j'étais enveloppée de tristesse comme dans un linceul. Ma foi en l'humanité était souvent ébranlée. et pour l'ensemble des équipes, bah oui, il y a des limites qu'on ne peut pas accepter. De voir tout cela, ces corps déchirés, ces vies détruites, ces communautés détruites, c'était souvent insupportable. Et il a fallu donc redéployer des équipes qui pouvaient renouveler, bah oui, la force et l'endurance des femmes, renouveler la force et l'endurance des soignants qui, dans l'hôpital, les prenaient en charge. C'est vrai qu'on avait vu dans la partie précédente l'espèce de désert sanitaire qui existait autour des femmes, ne serait-ce que, par exemple, pour l'accouchement. Eh bien, ce désert d'environnement des femmes victimes, il existait aussi à l'origine et il a bien fallu le remplacer justement par des équipes qui ont encouragé et inspiré la résilience des femmes, qui ont provoqué justement, c'est l'objet du livre, la force des femmes, la force de la résistance. Denis Mukwege nous dit « J'étais admiratif de la vitalité et de la force des femmes que je soignais, mais aussi de la vitalité et de la force des équipes qui les entouraient. » Les femmes que je soignais, même lorsque leur corps avait été ravagé par des attaquants et qui n'avaient plus pour seule perspective qu'une vie sans sexe ou sans enfant, parvenaient à retrouver des raisons de vivre. Elles ont continué à combattre, elles ont continué à avoir la force de se battre et de se battre pour leur entourage aussi. Elles ont retrouvé la volonté et le courage d'aller de l'avant et elles ont permis que chacun, chacune autour d'elle puisse conserver l'envie de vivre à nouveau et l'envie de recréer un avenir, puisque l'avenir et la recréation d'un avenir, c'est évidemment ce qu'en tant que femme, elle désirait toutes. Les femmes devaient puiser en leurs extraordinaires réserves intérieures de résilience parce que notre société congolaise, comme bien d'autres, les avait rabaissées au niveau de leurs agresseurs. Quand les patientes disaient « ils m'ont tué » au réveil d'une opération ou dans leur lit de convalescence, ce qu'elles voulaient dire, c'est que oui, elles étaient mortes physiquement, elles se sentaient mortes physiquement, mais aussi elles étaient mortes aux yeux de leurs proches ou des gens qui les avaient entourées à cause de la honte subie, à cause de l'horreur subie devant, on l'a vu, les villages ou les groupes entiers. Il arrivait qu'une femme violée soit répudiée ou que son époux divorce, parce qu'une fois violées, elles étaient perçues comme souillées. Elles étaient même souvent jugées responsables de leur agression, comme on le dit en Occident, coupables de l'avoir encouragée par leur attitude. On a vu dans certains villages des femmes condamnées par le chef des groupes sociaux ou le chef des villages. On a vu donc des femmes condamnées pour adultère, comme si, en effet, c'était un péché d'avoir été violée. Une femme, encore plus au Congo, est traitée comme un bien qui passe du père au mari lors du mariage et qui peut ensuite être retransmis. Donc, dans ce cas, elles sont rejetées si le bien n'a plus de valeur. Les épouses se retrouvent chassées de chez elles. Et c'est encore pire si elles sont tombées enceintes lors de leur agression. Au fond, la présence d'une femme violée rappelle à un mari son incapacité à la protéger. Et même dans une circonstance de guerre, l'homme préfère bannir la source de sa souffrance plutôt que de la mettre en question et de chercher à surmonter cette épreuve dans le couple. Parfois même, les sœurs ou la mère du mari vont l'aider à trouver une nouvelle épouse pour qu'il puisse échapper à la stigmatisation qui a été celle de sa femme victime de viol. L'isolement et la stigmatisation des victimes, en fait, ne se limitent pas à ça. Une victime peut être rejetée, oui, par sa famille, par ses parents, mais aussi donc par sa communauté et par tout son village. Une femme qui souffre, au lieu d'être soignée, va être rejetée. C'est pour ça que tant d'entre elles, se présentent à l'hôpital de Panzi. C'est que là, au moins, il n'y a pas de jugement, au contraire, il y a un soutien. Et les répercussions des violences subies peuvent être prises en charge à la fois médicalement et socialement. La prise en charge s'oppose à la marginalisation, aux contraintes de vivre seules ou en compagnie de leurs seuls enfants et au fait que les femmes violées deviennent des proies pour d'autres hommes ou des villages entiers. Les survivantes sont souvent, dans certains villages, supposées porter des mauvais esprits ou être des sorcières, et cela a pour résultat leur rejet, voire leur mise à mort. Donc c'est cela, bien sûr, qu'il faut terminer, et c'est cela à quoi il faut remédier. Alors, pour faire une transition un peu plus légère, et avant de voir justement ce que propose Denis Mukwege à partir de l'hôpital de Panzi, on va écouter Papa Wemba, le grand classique de la rumba congolaise. La rumba congolaise, ça date des années 1930, ça a connu bien des évolutions. Il y a des femmes aussi, mais là j'ai préféré prendre les grands classiques, je disais Papa Wemba. Non, vous n'aurez pas, Maria Valencia, vous aurez Yolele. Alors on y va, Jules, avec Yolele et 3 minutes 30 de musique. Alors, Yolele, c'est une chanson d'amour, c'est une chanson en lingala, alors que le docteur Mukwege, il parle plutôt swahili, mais bon, écoutez, c'est la grande fraternité et la grande sororité du Congo. On va se dire que de toute façon, ce qui compte, c'est en effet d'aimer les femmes et de ne pas les agresser. Et ce qui est intéressant dans le livre de de Denis Mukwege, c'est que justement, il prend vraiment en compte le caractère universel des violences faites aux femmes. Lui, bien sûr, il intervient dans un contexte de guerre qui est particulièrement horrible et particulièrement violent, mais il fait toujours référence au fait que finalement les violences faites aux femmes, c'est quelque chose qui se retrouve partout et contre quoi il faut lutter absolument partout. Donc, c'est vraiment ce qui m'a intéressée aussi dans son livre, c'est que il prend en considération les problèmes des femmes dans le monde entier. Et le fait que, finalement, aider les femmes dans un endroit du monde, c'est aider les femmes du monde entier, justement. C'est ce qu'il nous vient de nous dire, là, et c'est ce qu'il souligne, justement, dans cette partie. Le schéma des violences faites aux femmes se retrouve dans tous les endroits du monde où malheureusement les femmes sont vues comme des objets, où leur valeur est mesurée à l'aune de leur honneur. Ainsi, dans les groupes tribaux, patriarcaux du Pakistan ou de certains villages de l'Inde rurale, encore sous le joug de la tradition, les prétendus crimes d'honneur commis sur les femmes sont destinés à purger la communauté de la honte ou du péché entraîné par une agression sexuelle. Ils ne font qu'ajouter une nouvelle injustice à celle déjà présente. C'est ce qu'on retrouve dans certains villages congolais. La faute rejetée sur la victime prend différentes formes, mais elle est finalement partout d'actualité. Encore en Occident, il y a peu, ces traditions de l'honneur, exemplifiées par la virginité ou la chasteté, dominaient jusqu'à il y a encore peu de temps. Une écrasante majorité d'occidentales ont eu les agressions sexuelles, on tue, ça veut dire on passait sous silence, bien sûr. Les agressions sexuelles qu'elles avaient subies parce qu'elles avaient peur des réactions de la société envers elles. Celles qui ont osé les dénoncer ont dû répondre à beaucoup de questions. Et elles ont toujours été soupçonnées d'avoir contribué ou encouragé, d'une manière ou d'une autre, l'abus sexuel dont elles avaient été victimes par leur comportement ou leur tenue. Ce biais a été visible dans les médias, bien sûr, et puis dans certains procès. Par exemple, à Toronto, il y a eu un exemple particulier, celui du policier Michael Sanguinetti, qui est devenu tristement célèbre pour avoir, à la télévision, reporté la faute d'un viol sur la victime au cours d'un topo spécifique sur la sécurité du campus dans l'Université de Toronto. Topo qui était fait devant des étudiants et dans lequel on conseillait aux femmes d'éviter de s'habiller comme des putes afin de ne pas être prises pour des cibles. Alors ce policier qui s'appelle Sanguinetti, il a pensé lui qu'en effet c'était la seule chose qu'il y avait à faire, c'était que, entre guillemets, les femmes se cachent. Et finalement c'est aussi ce que pensaient les maris congolais moyens qui étaient pourtant séparés par 10 000 kilomètres de ce fameux Sanguinetti. Tous considéraient les femmes violées comme responsables de leur agression. Le discours de Sanguinetti, d'ailleurs, au Canada, a déclenché le mouvement Slut Walk, la marche des putes, qui s'est généralisée partout dans le monde, dans des centaines de villes. Vous savez, les femmes sont descendues dans les rues, vous vous en souvenez, habillées de façon particulièrement provocante pour affirmer leurs droits. Et nous, au Congo, nous avons suivi le débat avec des féministes locales qu'ils se demandaient en effet s'il fallait se réclamer des putes, c'était peut-être pas nécessaire, mais en tout cas, oui, il fallait penser au Congo comme ailleurs que bien des manifestants montraient, oui, une vérité, c'est-à-dire que les femmes étaient dévalorisées. En fait, ce qui est vital, c'est que les attitudes doivent changer. C'est vital dans toutes les sociétés. Il faut que dans toutes les sociétés, le blâme, la culpabilité et la responsabilité des violences faites aux femmes soient portées sur les agresseurs. Ce sont les agresseurs qu'ils doivent payer le prix, pas les victimes. Bien sûr, les pays et les cultures sont différents. Mais aucun n'a atteint le point des violences sexuelles comme on les a vues au Congo, en particulier pendant une vingtaine d'années. Et on peut et il faut développer vis-à-vis des victimes la compassion et le soutien inconditionnel. Au-delà de tous les jugements des chefs de communauté, des chefs locaux, etc., qui reformulent des stigmatisations très fortes au Congo comme ailleurs. Donc en fait, médicalement, nous avons réalisé de très grands progrès. Il a fallu ensuite construire, on l'a vu, nos programmes de soins psychologiques. Et ces programmes de soins se sont développés malgré des ressources limitées. Au fond, nous n'en faisions jamais assez. Nous avions toujours besoin de soutien dans nos actions. Je savais qu'il fallait trouver des parades au déferlement de haine qui s'exprimait dans le Congo occident, dans le Congo oriental. Il fallait que nous améliorions, que nous développions sans arrêt nos méthodes pour toucher les gens, pour toucher l'ensemble des populations et pour aider à reconstruire les vies qui étaient démolies par l'horreur locale, mais l'horreur des guerres surtout. Nous devions nous élever contre toutes les conventions sociales cruelles qui affectaient encore les survivantes. Et il faut se dire, comme l'une d'entre elles, ce n'est pas la fin de notre vie, nous allons vivre autre chose nous attend si on veut. Les blessures, le viol, les souvenirs, ça ne s'en ira jamais, il faut les accepter. On peut espérer, bien sûr, être soulagé, on ne peut pas espérer les faire disparaître. Mais en faisant chaque jour un pas de plus vers la reconstruction, on peut finir par laisser tout ça derrière soi. Donc c'est ce à quoi va s'employer le docteur Mukwege avec l'aide d'un certain nombre de personnes. Et en particulier, je voulais souligner dans le cadre des aides internationales qu'il avait reçu l'aide de Eve Ensler, vous savez, cette auteure ou autrice plus exactement américaine de New York qui a écrit les monologues du vagin. Eh bien, figurez-vous que les monologues du vagin, ça a tourné en tant que spectacle dans, on pourrait dire, le monde entier. Ça a rapporté beaucoup d'argent à Eve Ensler. Et Eve Ensler, elle a soutenu justement l'hôpital de Panzi et le docteur Mukwege. Elle est allée rendre visite à l'hôpital de Panzi et elle a souligné précisément l'universalité des problèmes, l'universalité des violences faites aux femmes. Et surtout, elle a rassembler de l'argent et donner de l'argent à l'hôpital de Panzi et aux structures psychologiques et sociales que le docteur Mukwege mettait en place pour redonner la force aux femmes, ou plutôt pour activer la force des femmes. L'universalité des problèmes, des violences faites aux femmes, c'est aussi l'universalité de la façon dont les femmes résistent, la façon dont les femmes reconstruisent justement leur personnalité après la violence. Alors, à Panzi, l'argent apporté par l'ONU, l'argent apporté par l'UNICEF, l'argent apporté par l'Agence suédoise pour la coopération et l'argent apporté par Eve Ensler ont permis de construire des bâtiments hospitaliers qui n'étaient plus tout à fait des services hospitaliers en tant que tels. C'était des bâtiments indépendants, disposés autour de cours, mais plantés de palmiers, de gazons, de fleurs, reliés par des allées protégées de toits de tôle, mais bordées de plantations qui permettaient aux femmes de découvrir un univers au moins accueillant et un univers à l'intérieur duquel elles pouvaient se reconstruire. Il y a eu aussi des contributions apportées par le gouvernement britannique et par l'Union européenne qui ont développé justement à la fois les équipements médicaux et les équipements sociaux nécessaires pour la vie à nouveau des femmes dans la société congolaise. Ce qui s'était passé au Congo, c'est qu'il y avait eu, on l'a vu tout à l'heure en commençant, une disparition de l'état de droit dans bien des régions, dont bien sûr le Kivu. Et cette disparition de l'état de droit s'est faite au profit de petits chefs locaux et puis de chefs rebelles qui souvent ont pris le pouvoir face à un pouvoir défaillant, précisément. Et ce qui a évidemment pris le haut du pavé, pourrait-on dire, c'est la corruption, la prévarication, les chantages, le fait que finalement la population tout entière était prise en otage à la fois par les petits chefs, par les policiers, et que peu à peu, ça devenait très difficile de vivre sur le plan civil, on pourrait dire, dans ces zones. Et l'hôpital de Panzi représentait un genre de havre de paix, un genre de cité du renouveau. Et d'ailleurs, ce que le docteur Mukwege a construit peu à peu, il l'a appelé la cité de la joie. Il l'a appelé la cité de la joie, c'est peut-être un peu, je ne sais pas comment on peut dire, un peu caricatural, mais tout de même, c'est l'essence même de son message, c'est qu'il il demande véritablement que l'enclave dans laquelle il vit, lui et toutes les femmes qui vivent autour de lui, soit laissée en paix. Alors ça a fonctionné un certain temps, oui bien sûr, et puis bah, maintenant, non, manque de chance je pourrais dire. Bukavu est tombé aux mains des rebelles venant du Rwanda et les rebelles rwandais qui exercent maintenant le pouvoir à Bukavu, malheureusement, ont poussé à l'exil le docteur Mukwege et un bon nombre des personnes de ses équipes. Bon, pour l'instant, c'est une zone occupée par les rebelles, par les milices, par des personnes avec lesquelles il est très difficile de nouer des liens. Les difficultés auxquelles le docteur Mukwege devait faire face, c'était l'alimentation en électricité, l'alimentation en eau. Il avait mis en place, par exemple, pour l'électricité, bien sûr, des groupes électrogènes, des moteurs diesel qui fonctionnaient 24 heures sur 24 pour pouvoir alimenter le centre hospitalier, mais surtout les salles de chirurgie, les couveuses, les respirateurs et tous les appareils à la fois médicaux et d'environnement qui permettaient la survie des malades et de l'ensemble de la population de Bukavu. Il nous dit « J'ai refusé de payer des pots de vin. » À l'inverse, il est arrivé que l'État se soit emparé tout simplement de notre argent. Par exemple, en 2014, j'avais reçu le prix Sakharov de la part du Parlement européen, ce prix qui récompense chaque année une personne engagée en faveur des droits humains. Le prix Sakharov, il était assorti d'un chèque de 50 000 euros, c'est pas rien, surtout en Afrique. Alors, tout l'argent qui était offert, un peu comme celui du Nobel, elle a été sous forme d'un chèque établi à l'ordre de la fondation Panzi. Chèque déposé, bien sûr, dans une banque congolaise. Mais le compte a été gelé par l'administration fiscale locale. On ne pouvait plus servir du compte du tout. On ne pouvait même plus acheter des médicaments. Il y a eu un moment où nous étions dans l'incapacité de payer les salaires du personnel. Alors, pour la première fois, les infirmiers, les médecins et la population se sont regroupés sous les fenêtres du centre des impôts de Bukavu. Et même, j'ai engagé des avocats pour faire dégeler nos avoirs. Donc le compte en banque a enfin été débloqué. Mais quand il a été débloqué, il était vide. On n'a jamais su, bien sûr, qui s'était servi du fonds Sakharov et des fonds versés par l'Europe. Je n'ai jamais récupéré cet argent. Ce sont d'autres versements qui ont compensé la perte sèche de mon compte vidé par les autorités congolaises. Eh oui, c'est le quotidien de l'Afrique, c'est le quotidien de cette prévarication et du fait que ceux qui ont le pouvoir se servent dans les coffres, se servent de l'argent là où il est. Revenons brièvement à ce qui a été mis en place par Evensler. quand elle a rendu visite à l'hôpital de Panzi, elle a demandé aux survivantes de leur raconter leur vie, de lui raconter leur vie. Elle leur a parlé de sa propre histoire de violence, du fait qu'elle avait été abusée par son père pendant des années et du fait qu'elle avait dû s'enfuir et vivre dans les rues à New York en étant droguée ou en subissant de nouveaux abus. Donc, parce qu'elle s'est reconstruite, elle a dit « Chacun, chacune peut se reconstruire. Dites-moi, ici, ce que je peux faire pour vous. » Alors, les femmes de l'assistance ont raconté. Ève a été submergée par des récits de douleur, comme elle l'aurait été en Bosnie, en Afghanistan ou à Haïti. Mais c'est vrai que ce moment de communion avec les Congolaises a été un moment fabuleux de prise de conscience et d'extension de la prise de conscience de la recréation sociale des femmes. C'est vrai que le viol ne se limitait pas au village ou à la jungle du Congo. Il était très important dans tout le pays. Et le fait qu'une autrice célèbre, new-yorkaise, aisée, décrivent les expériences congolaises et montrent son émotion face à ce qu'elle avait entendu, était primordial dans le recueil de fonds et dans le financement de la Cité de la Joie. Dans la cité même, la visite de Eve Ensler a comme allégé l'atmosphère du groupe. Ces femmes de partout, ces femmes à la fois de l'Ouest et d'Afrique, enfin d'Ouest en tant que civilisation, se sont réunies autour des tambours congolais, les tambours qu'on a entendus tout à l'heure. Elles se sont mises à danser, à applaudir, à chanter. Elles se sont laissées envahir par la musique et la danse. Et même si certains ou certaines avaient des réticences à danser, moi-même, je ne suis pas trop portée sur la danse, eh bien, ce jour-là, autour d'Eve Ensler, s'est mise en place une formidable communion par la musique et la danse. L'argent apporté, bien sûr, mais aussi la chaleur apportée, nous a permis de danser dans ce hangar où nous étions réunis et nous sommes sortis danser autour de tous les bâtiments de l'hôpital. Nous sommes retrouvés, blouse verte, blouse blanche, boubou de toutes les couleurs. Nous nous sommes retrouvés souriants, riant, face aux regards parfois perplexes des visiteurs et des patients. Et cette fois-là, cette nuit-là, j'ai dormi. Moi qui étais assaillie d'insomnie, j'ai dormi cette nuit-là, toute une nuit paisible, sans me réveiller, pour la première fois depuis des mois. Et Eve Ensler a reçu des réponses du monde entier. Elle a en particulier fait transiter les fonds de l'UNICEF. Elle les a fait transiter par son compte personnel, afin que justement le compte ne soit pas vidé. La vision des survivantes de l'hôpital, qui s'est concrétisée sous la forme de la Cité de la Joie, c'est un espace pour les femmes violées qui offre protection, éducation et inspiration. Parce que c'est justement ce qui est construit dans cette Cité de la Joie, c'est la réinsertion des femmes dans leur milieu. Alors, elles sont éduquées, oui, elles reçoivent l'instruction, la formation professionnelle, et peu à peu, elles vont pouvoir revivre, elles vont pouvoir transformer la souffrance en pouvoir, transformer la souffrance en espoir. Transformer la souffrance en pouvoir, c'est cela la force des femmes. C'est ce que souligne bien sûr Denis Mukwege. Il y a l'autre côté du miroir. L'autre côté du miroir, c'est un autre chapitre. Et l'autre côté du miroir, c'est la volonté qu'il a eue de faire poursuivre les auteurs des viols, les auteurs des violences. C'est vrai que très bizarrement, oui et non, puisqu'on était dans une période de guerre, la poursuite judiciaire des violeurs ou des troupes qui avaient commis les viols n'avait jamais été entreprise. Il n'y avait aucune poursuite contre les violeurs parce que, une fois de plus, le pays était désorganisé Et puis aussi, comme on l'a vu, parce que les femmes n'étaient pas considérées. Et donc, des chefs de bande ont quelquefois répondu à Denis Mukwege, « Quand on tranche la gorge d'une chèvre ou d'un poulet, on ne se pose pas de questions. Eh bien, une femme, c'est pareil. On a le droit de faire ce qu'on veut avec. » Cette espèce d'affirmation horrible d'un chef de guerre, c'est une pensée qui, hélas, est assez répandue dans les troupes à la fois du gouvernement et des rebelles qui passent leur temps à rasier le pays. Donc la violence sexuelle, elle était sans conséquence pour l'agresseur et c'était cela qu'il ne fallait plus tolérer. Outre la reconstruction des femmes, il fallait aller vers la punition des violeurs, la punition des violences faites aux femmes. Cette pratique des violences qui avait été pendant des années intégrée à la guerre, il fallait la rendre punissable. Et cette punition, c'est ce que Denis Mukwege, avec un certain nombre d'administrateurs au Congo, a essayé de mettre en place. Il a été soutenu en cela par des universitaires de tous les pays qui ont cherché sur un plan juridique comment on pouvait justement poursuivre les auteurs de violences. Ces auteurs de violences, ils ont été reconnus et poursuivis par exemple dans l'ex-Yougoslavie. Et le travail actuel de Denis Mukwege, puisqu'il n'est plus à Panzi, puisqu'il n'est plus à Bukavu, c'est justement d'organiser la poursuite des violeurs, la poursuite des auteurs de violences. C'est le dernier volet du livre. Je ne m'étendrai pas là-dessus parce que malheureusement, pour l'instant, ça n'a pas beaucoup avancé. C'est bien difficile en zone de guerre d'aller dans ce sens. Mais c'est l'objet, bien sûr, des tribunaux internationaux. Et je vais vous quitter pour la journée, pour la semaine. Vous souhaitez une bonne semaine avec toutes nos manifestations culturelles. N'oubliez pas d'aller voir les films des instants vidéo à la Friche. Les instants vidéo de jeudi à dimanche à la Friche avec des tas de petits films ou de films courts sur grand écran pour quelques jours. À bientôt.
Here's a song that comes from Tanzania.